Bienvenue sur ce balado qui aborde le sujet de la santé des femmes. Le meilleur de soi propose des rencontres inspirantes avec des invités qui parcourent les différents piliers de la santé intégrative. Il et elle partagent une vision holistique de la santé et font la promotion de la prévention pour nous aider à vivre pleinement. Je suis Evelyne Robert, animatrice, et ce que j'aime le plus, c'est de créer ces espaces de rencontres qui nous permettent de se questionner, de réfléchir et d'apprendre. Je vous souhaite donc d'être inspirée pour votre santé. Femme médecine, maman, massothérapeute psychocorporelle, accompagnante à la naissance et formatrice depuis toujours, mon invitée est une femme colorée, intuitive, curieuse et à l'écoute. Sa vision de la guérison et de la transformation personnelle est très créative, organique et vibrante. Avec ses années de pratique, elle a développé une approche unique en consultation qui rallie autant le massage, la relation d'aide, les sons, le chant et les produits de la terre. Bienvenue, Annick Baillargeon. Je suis tellement contente que tu sois là. Vraiment, vraiment contente de te recevoir. On dirait que tu es émue.
Oui, je suis émue, je suis excitée. C'est plein de joie, hein? C'est vraiment plein de joie.
Je suis contente. C'est réciproque, vraiment. J'aurais pu ajouter à ta bio que tu es aussi quelqu'un qui a étudié en animation culturelle et qui a fait de l'organisation d'événements culturels pendant des années.
Ça a été...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais j'ai... Depuis toujours au secondaire, au cégep, le théâtre, l'impro, c'était vraiment des portes pour moi de créativité, d'être avec les amis, de vraiment honorer la scène. Puis j'ai eu la piqûre, comme on dit. Puis après, quand c'était le temps d'aller à l'université, je voulais étudier en communication, je voulais travailler à la télévision. Puis après, j'ai changé. Puis j'ai dit, j'allais faire mes auditions de théâtre. J'ai fait les auditions. Ça n'a pas fonctionné. Donc après, je me suis dit, OK, je vais aller dans l'organisation événementielle. Je vais aller faire le programme d'animation recherche culturelle parce que c'est très large et vaste. Je peux travailler autant dans le communautaire, l'événementiel, l'organisationnel, bref. Et une approche aussi sociologique en com. C'est comme un mélange. Et ça a vraiment été 3 années merveilleuses qui m'ont amené à travailler dans l'événementiel, à faire du booking d'artistes.
Pendant longtemps, quand même?
Pendant 6-7 ans, à peu près. Petite compagnie de production magnifique avec une équipe extraordinaire qui, longtemps, a organisé le défilé de la Fête nationale. Oh. Alors, le grand défilé là, qui se passait à chaque année.
Oui.
Et rencontrer les artistes, les artisans, des bénévoles, travailler aussi toute la scénographie, la mise en scène. Donc, moi, je m'occupais de trouver les gens, d'aller cueillir les gens, les rencontrer, organiser les répétitions, puis tout construire tout ça ensemble avec les costumes, les décors, les déambulatoires. Il y avait quelque chose de... Ça me donne des frissons d'en parler parce
oui.
que c'était tellement de créativité puis d'être avec les gens. Et après, d'autres événements, d'autres festivals, Festival Montréal Lumière, la Grande Mascarade dans le Vieux, Montréal aussi.
Et ça, il faudrait qu'on s'en reparle parce que moi, je dansais dans ce festival-là, dans la Grande Mascarade.
Oui, on s'était dans les
débuts. Avec Pierre-Paul Savoie.
Oh, wow.
Je suis dans cette séquence-là, c'est drôle, hein?
Oui.
On se connaît sans se connaître.
C'est vraiment...
On a un parcours un peu similaire, mais toi, tu as vraiment fait un détour à un moment donné vers la santé.
Ce détour-là, en fait, dans l'événementiel, c'était vraiment extraordinaire. On était tous célibataires, on était dans des espaces de créativité, d'intensité, de faire de la régie, la scène, il y avait quelque chose de magnifique. Puis à un moment donné, je dis OK, mais en parallèle, il y a toujours eu la santé qui est importante, il y a toujours eu mes pratiques personnelles, que ce soit le yoga, la lecture, la spiritualité, et puis le projet d'avoir une enfant, le projet de créer une famille, puis... À l'époque, c'est ça, mon amoureux est en production aussi, cinéma. Donc, on est parti de ces sphères-là pour aller dans d'autres sphères, dans l'éducation, dans la santé. Et puis, j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à étudier la massothérapie, la naturothérapie, plein de types
de choses. Donc, c'est au moment où tu étais enceinte ou avant ça?
Avant, 2008. En 2008. Okay. Et puis, quand j'ai commencé à plonger dans ça, c'est des appels, hein? on revient. Puis moi, je viens d'une famille aussi, ma mère faisait des soins, le Reiki, elle a une librairie ésotérique, ma grand-mère. On était beaucoup dans ça.
OK, OK.
Puis après, on voyage, on se promène, puis on y revient. Et quand je suis revenue dans l'apprentissage des techniques, je me suis dit, mais où est-ce que je m'en vais avec ça? Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tissait, se tricotait. Et après, bon, je suis tombée enceinte d'Adélie et ça a orienté toute ma pratique par la suite.
Évidemment, les grossesses. Mmh. Puis tu dis que ça a ouvert aussi une grande porte sur le féminin sacré. Mmh.
Le féminin sacré, oui, ça c'est la... c'est une grande phrase, hein, le féminin
oui,
sacré.
C'est... Oui, c'est souvent utilisé, mais chez toi, je sais que c'est très ancré.
Oui, bien, ancré, c'est tellement vaste, le sujet du féminin sacré, hein, dans honorer notre chemin de femme, dans honorer nos cycles, dans honorer notre nature cyclique, nos transitions. Ensuite de ça, le sacré va dans plusieurs cultures du monde, dans des peuples, dans les rituels de passage, dans plein de transitions qu'on vit. Puis on est dans nos corps de femme, et en vivant la grossesse, moi, ça a été une révélation extraordinaire parce que j'ai cherché des espaces plus spirituels, énergétiques. À l'époque, il y a 14 ans, on n'avait pas d'espace qui était relié au féminin sacré, qui était relié à connecter avec son corps. Sa grossesse est quelque chose de très conscient, d'unique.
On trouvait dans les arts, interprétation, mais en dehors de ça, effectivement, il n'y avait pas...
Non, il n'y avait pas ça. Puis là, j'ai rencontré des femmes, des femmes médecines qui arrivaient de l'extérieur, qui étaient sages-femmes, qui faisaient des soins aussi, dans l'accompagnement à la naissance, dans tout l'aspect aussi spirituel d'incarnation, de savoir que je porte la vie, d'aller dans différents outils, la maternité sacrée dans l'Ayurveda aussi, d'en prendre soin de son corps, son âme, la période aussi de préconception, que ce soit détox du corps, mais que ce soit aussi d'être dans cette conscience-là, de ralentir les rythmes aussi.
Quand tu le dis comme ça, effectivement, c'est très vaste. Hein?
C'est extrêmement vaste. Okay. Et comme on peut chanter des mantras avec nos couronnes de fleurs, tu sais, je veux dire, puis être dans le féminin sacré, c'est aussi vivre plein de deuil, c'est vivre plein d'expériences, c'est rentrer dans notre zone, être le corps, l'esprit, notre âme, c'est... Et oui, alors porter la vie, être traversée, la donner, ça ouvre plein de portes.
Mm-hmm. Penses-tu que c'est pour ça que... Penses-tu que c'est parce qu'on s'est un peu déconnecté du féminin sacré, qui en fait a toujours été là, que c'est autant populaire dans les depuis quelques années, on entend plein de monde, tu sais, deviennent comme des supporteurs du féminin sacré?
Oui, bien, je crois que dans notre génération, il y a comme une deuxième partie de nos vies qui est dans se reconnaître, dans les rôles de la femme, en fait. On pourrait parler de tous les rôles qu'on porte dans l'émancipation.
On n'ira pas là, ça va être très long.
Ça va être très long et très intéressant, mais créer, de pouvoir créer notre métier, de pouvoir changer, de pouvoir ralentir, de transformer les choses, d'innover, d'inventer. Alors, à travers ça, le féminin sacré, c'est une façon de voir que dans les rôles qu'on joue, les chapeaux, bien, il y a une femme, il y a un être humain. Mm-hmm. Puis bon, il y a toute notre société patriarcale aussi, mais notre éducation, nos mères, nous, avec nos enfants en ce moment, Il y a des générations qui sont différentes dans s'émanciper, voyager, explorer. On n'est pas dans les mêmes métiers toute une vie. On n'est pas la même personne à chaque jour. Et tout l'aspect de la croissance personnelle aussi, que on a vécu et qu'on vit. Et cette espèce waouh, je peux choisir, j'ai des besoins, j'ai des limites, j'ai des émotions, je suis une alchimiste de plein.
Il y a beaucoup d'offres, effectivement. Il y a beaucoup de possibilités. Pour prendre soin de soi, là.
Exactement. Oui, prendre soin de soi.
Puis pourquoi t'as fait... C'est-tu ta maternité qui t'a donné le goût d'aller vers la naturopathie périnatale?
Oui, dans la...
Je le dis comme il faut?
Oui, dans tout l'aspect naturopathie, naturothérapie, les approches, en fait. Oui, j'étais déjà dans ma pratique de massothérapeute, mais après, en l'ayant vécu, j'ai dit, là, il y a beaucoup d'éducation à faire. Ça prend des cercles pour les femmes, ça prend les centres de périnatalité aussi qui commençaient à être en place, la possibilité de choisir la façon dont on a envie d'accoucher, le lieu de l'accouchement, vivre notre grossesse, notre postnatal aussi. Donc, en le vivant, je me suis dit, waouh, il y a plein de beaux endroits où on peut prendre soin de notre corps après, dans le support, le langage pour bébé. Mais je me dis, c'est où est-ce qu'on parle, en fait, de transformation identitaire, spirituelle, de tout ce que ça implique aussi comme changement de vie, comme mode de vie, et pour les femmes, en fait.
Puis, tu as trouvé où ça se passe?
J'ai trouvé plus ou moins, j'ai plutôt avec d'autres femmes, d'autres amies, commencé à parler de l'Ayurveda, de cet aspect d'hygiène de vie, du lien qu'on a justement entre je vis mon congé de maternité, je reprends le travail rapidement ou je reprends, et plusieurs fois, moi je le voyais dans ma pratique aussi, les femmes étaient épuisées, ça faisait plus de sens, ils cherchaient une direction, l'énergie est différente.
Mm-hmm.
C'est pas tant de vouloir rester à la maison ou être dans ce... c'est plus... ma vision change, mes valeurs changent. Et il y a quelque chose de précieux dans le postnatal des premières années de vie aussi, qui est, ça joue sur nos hormones, sur notre fatigue, sur tout.
Ouais, exact.
C'est un sujet en soi. Et à partir de là, bien, beaucoup de femmes changeaient de direction. Beaucoup apprenaient à changer de travail, ou diminuer, ou comme créer, aller dans d'autres zones, se réinventer, devenir doula, ou changer, prendre un cours en relation d'aide, être dans d'autres spectres. Et de partager la médecine ayurvédique, c'était ça aussi. C'est que mon hygiène de vie, mon lifestyle a un impact sur ma santé physique, émotionnelle, sur le fait que je suis là pas pour être épuisée, je suis là aussi pour me transformer, je suis là pour honorer.
Mm-hmm. C'est vraiment intéressant parce qu'on dirait que c'est la première fois que, bien, je le savais intuitivement, mais quand on accouche, il y a quelque chose d'immense qui se passe. Puis, quand on arrive à 40 ans et plus, la préménopause, périménopause, ménopause, bref, il y a aussi là un grand... Puis moi, je réalise que, je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, mais moi, j'ai eu mes enfants tard, tu sais, j'ai eu mes enfants à 38 ans. Donc, j'ai vécu comme deux gros changements rapprochés, parce que pas longtemps après, je commençais ma périménopause, tu sais. Alors, oui. C'est comprends. Ça, il y a quelque chose qu'on dirait que je viens de comprendre pendant que tu parles.
Mais oui, tout à fait. Et c'est pas les mêmes générations qui ont leurs enfants 25 ans, 30 ans. Mm-hmm. Maintenant, les enfants arrivent beaucoup plus tard aussi.
Ouais.
Et oui, effectivement, c'est cycle.
C'est que ça crée des gros changements.
Ouais. Et on n'en parle pas tant. Il y a Ingrid Bayot, qui est une sage-femme, qui parle du quatrième trimestre, en fait, qu'on ne parle pas du retour à la maison, qu'on installe l'allaitement, les nouveaux cycles, le couple, physiquement, la lune de miel.
Peux-tu répéter son nom?
Ingrid Bayot.
Je la connais pas.
Oui. Et on éduque beaucoup les femmes, les familles. Quand j'étais doula pendant plusieurs années, j'ai accompagné les couples dans leur choix.
Doula, on va dire ce que ça veut dire.
Oui, accompagnante à la naissance.
Oui,
okay. Accompagnante à la naissance. De faire des choix éclairés sur la façon de vouloir accoucher, de se faire un plan de naissance, de choisir la position, de choisir les milieux, de pouvoir changer, de pouvoir accoucher à la maison. Et à travers ça, c'était aussi beaucoup d'éducation sur se préparer à accoucher, mais sur le postnatal. Et on n'en parle pas, mais de toute façon, on doit le vivre. Ça doit nous traverser pour savoir qu'est-ce que
absolument.
C'est.
Absolument. Ouais.
Mais dans la maternité ayurvédique, il y avait les soins, il y avait prendre soin, il y avait aller à la maison. Il y avait aussi tout cet aspect de transition, de sororité, des soins rebosso avec les tissus, avec les échanges, la sororité de savoir qu'on est ensemble, qu'on est vu, qu'on est entendu, puis que ce que je vis est normal, que ce soit dans l'isolement ou que ce soit dans « je me reconnais plus ». Ça prend toute une année. Il y a comme une renaissance de la femme de toute cette première année.
Exact. Ben oui.
Mais oui.
Puis c'est pour ça qu'on se laisse de la place pour vivre cette première année, le plus possible, en tout cas, idéalement. Il y a quelque chose qui m'a, puis tu vas peut-être me corriger, mais qui m'a surpris quand je t'ai envoyé un petit questionnaire dans tes réponses. Il y a un moment donné où tu as parlé de ta séparation comme un retour vers ta féminité. Puis là, je me suis dit, mais comment ça se peut?
Comment est-ce possible? Quand je l'ai écrit, je me suis dit, ça va être un peu.
Tu savais que t'allais me piéger.
Tu savais que t'allais me piéger.
Parce que là, j'ai ben en fait, j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, je vais lui demander.
En fait, si on fait le fil avec l'accouchement, on se rend compte qu'on accouche de plein de choses dans notre vie de femme. On accouche de projets, on accouche. Et la séparation a permis de me retrouver, en fait, après 12 années de relations, de parentalité, de se retrouver. Je suis qui comme femme après toutes ces années? Le temps de se retrouver avec soi-même, d'avoir du temps, de me dire « Wow, je suis rendue qui? » Au-delà de la thérapeute, au-delà de la maman, de pouvoir faire certains rites de passage. Avoir du temps, c'est aussi ramener un miroir devant soi, puis de faire « Oh, OK, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes non-négociables? » Puis à travers ça, c'est du féminin sacré, la féminité, on peut parler de sensualité, on peut parler de sexualité, on peut parler de créativité aussi. On parle de tantrisme, c'est pas tant juste dans plusieurs médecines du monde, on va parler de chi, d'énergie, de transformation. Alors,
donc, le fait de t'être séparée, ça t'a donné de l'espace, finalement, on va dire ça,
ben oui,
pour te retrouver.
Ben oui, on devient des nouvelles versions de soi-même.
Puis là, j'aimerais que tu nous parles de tes... Tu as tellement raison, là, je le comprends maintenant. J'aimerais ça que tu me parles de tes approches corporelles, psychocorporelles.
Oui. Les approches sont dans une vision très holistique, c'est-à-dire, dans mon travail de massothérapeute, il y a un mélange aussi de coaching, un mélange de relations d'aide. C'est sûr qu'avec les années, on a plein d'expérience, on a plein de formations, on sait très bien que maintenant, quand la femme... Je dis la femme parce que beaucoup de femmes viennent me voir. Elle arrive avec son corps, avec des émotions, avec un passage qui est là. Alors, le passage peut être un deuil, peut être une transition vers un nouveau travail, peut être j'ai envie de ramener les rides vers l'intérieur ou non, j'ai besoin de créer de l'espace. Okay. Alors, quand on prend le temps d'arrimer les intentions, de partager, d'aller faire du focusing, je ramène ça sur la table. Je ramène ça. De soins, oui. Okay. Parce que dans le fond, les soins n'est pas juste un massage. C'est un mélange entre plusieurs techniques somatiques, de thérapie crânienne, d'Ayurveda, de Chinidzang, de massage du ventre, énergétique aussi, parce qu'on est dans plein d'éléments. C'est sûr qu'il y a...
Donc, c'est très ayurvédique, ou je vais dire, c'est très yogique même.
Oui, c'est très, très yogique. Et oui, c'est une belle façon de le dire ça peut être l'aspect, c'est sûr, corporel, mais méditatif. Et quand on prend le temps, notre peau, là, c'est notre plus grand organe. C'est le plus grand organe. C'est lui qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur. C'est lui qui sent les choses. Puis qui est formé à 8 semaines in utero. Donc, quand on touche quelqu'un, on y va dans l'énergie aussi. Puis quand on prend les huiles ayurvédiques qui vont en fonction de la constitution, de la saison, des plantes qui sont différentes, la façon de faire le soin, on n'est pas dans les attaches insertions. On est dans le thérapeutique, mais on est beaucoup dans un flot. Alors, c'est aussi très passionnant de parler de ça parce que s'il y a un débalancement au niveau de l'anxiété, du sommeil, où je me sens éparpillée, j'ai froid dans mon corps, ma digestion est irrégulière, il y a un débalancement vata. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a besoin d'ancrage, d'enracinement, et c'est souvent pris dans les hanches, c'est souvent au niveau de la tête. Donc, quand on fait certains mouvements dans un flot avec les huiles, on rééquilibre les choses. Donc, l'approche holistique, elle est dans cette... Et en utilisant les sons, les odeurs, les huiles essentielles, différentes techniques, parce que je ne suis pas toujours en mouvement. Des fois, on est dans un grand silence parce que je vais être à la tête, au crâne, mais on est dans les sens. Alors, on sort de la tête.
C'est beau. Pendant que tu parlais, je me disais... J'ai toujours été très intéressée par l'Ayurveda, j'ai lu des livres, j'ai été dans des boutiques, j'ai reçu des soins ayurvédiques aussi, mais à chaque fois, je suis comme « Oh my God, c'est bien trop compliqué parce qu'il faut prendre du temps. » Puis pendant que tu parlais, je me disais « Ah, c'est ça que l'Ayurveda aurait pu m'enseigner si j'avais été à l'écoute, tu sais. »
Oui, et quand tu parles de temps, qu'est-ce que tu veux dire?
Ah, c'est une bonne question!
C'est quoi ça pour toi?
Le temps, c'est parce que je me disais, il faut apprendre, tu sais, il y a quatre, tu sais, comme tu parlais de Vata,
oui,
c'est ça. Ensuite, les plantes qui vont pour chaque, puis c'est tellement vaste, l'Ayurveda, c'est vraiment, vraiment vaste, l'Ayurveda, puis moi, quand tu m'en parles, je suis comme, wow, c'est tout ça, c'est vraiment une chance. Oui, c'est vrai que c'est une médecine en soi.
Ça, c'est une médecine avec
des. D'ailleurs, je n'ai pas été étudiée en médecine parce que c'était trop long. Alors, on dirait que je l'aime même, tu sais, je comprends, oh, mon ouais. Dieu, tu sais, c'est...
C'est toute une vie, dans le fond, avec différentes branches, parce que l'Ayurveda, il y a toute la spiritualité qui est merveilleuse.
Oui,
dans,
c'est beau.
Dans le yoga, la méditation, dans la connexion des rythmes, des saisons, dans pulser de l'intérieur à l'extérieur. On est le microcosme du macrocosme, là.
Mais tu l'incarnes parfaitement bien, Ayurveda. Moi, je n'aurais pas pu, mais en tout cas, j'ai quelque chose à aller apprendre, là, c'est certain, là. Puis, tu reçois des clients, mais pour les femmes, les femmes que tu reçois qui ont 40 ans et plus, tu remarques, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient le plus souvent chez ces femmes-là?
Oui. Dans ce virage.
Dans les besoins de ces femmes-là.
Oui, les besoins. On revient à nos hormones. On revient à la périménopause. On revient aux rythmes différents. On revient à certains symptômes. Des défis. Et quand on parle de défis, il y a des défis de, bien, c'est sûr, hein, de stress, d'anxiété, de sommeil, de performance, la famille, les enjeux de la famille, les enjeux des enfants, des ados, des projets. Il y a encore, dans cette optique-là, aussi dans la fertilité, la maternité, il y a comme, pourquoi j'arrive pas à tomber enceinte, par exemple? Souvent, c'est parce qu'il y a des rites quand même effrénés. Je veux dire, le sens de tout ça va toujours ramener la femme à s'arrêter, puis à prendre le temps de regarder. Puis notre corps, il nous donne... C'est comme un mantra pour moi, je crois, une phrase fétiche. Il nous donne toujours l'heure juste. Alors souvent, quand je me sens pas bien, quand j'ai des symptômes, quand j'ai de la maladie, là, je m'arrête. Là, je cherche des approches alternatives. Je cherche à faire du sens. Je cherche en médecine parce que j'en ai besoin. Je cherche en relation d'aide. Et puis... Il y a tout ce multidimensionnel-là. Donc, mon corps me parle. Et c'est tellement beau parce que les femmes, sincèrement, c'est sûr que j'ai une clientèle de femmes depuis plusieurs années, qu'on a cheminé ensemble, mais beaucoup sont... Les gens sont prêts, les gens sont conscients aussi. Les gens ont besoin de ralentir. Alors, on peut parler de la périménopause, mais dans... Qui suis-je aussi? Il y a des crises identitaires, là. Il y a plein d'aspects.
Est-ce qu'il y a des erreurs récurrentes que tu vois qui reviennent, que les femmes font? Les erreurs, c'est un gros mot, ça, erreur, je trouve. Ouais. Je ne sais pas si on pourrait le modifier.
D'expérience,
hein? Oui, mais d'expériences qui sont... Et tu dis, ah, elle est encore allée là, ou il y a encore quelqu'un qui a été là, tu sais. Un mauvais chemin, mettons.
Ouais, mauvais chemin de l'expérience. En fait, c'est souvent, je me suis oubliée.
Ah oui.
Je me suis oubliée. Là, j'ai besoin de revenir à la maison. Je me suis... On s'oublie, c'est normal. On peut avoir toutes nos belles pratiques. On s'oublie, whoop, on revient. On revient par la vie, on revient par notre corps, on revient par nos émotions. Et j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me recentrer. J'ai besoin d'être entendue. J'ai besoin d'être vue. J'ai besoin de pleurer. J'ai besoin d'avoir... de me sentir enveloppée. J'ai besoin de recevoir. Et ce qui est extraordinaire à travers ça, c'est
faudrait que... Je pense que on va le réécouter au ralenti, là. Wow, il y a du stock, là.
Oui, il y a du stock tellement, parce que juste se déposer, juste prendre le temps de se déposer, recevoir et connecter avec son corps aussi. C'est là que tout se passe, en fait. C'est pas dans notre tête, hein. Notre tête est au service,
mais
on est tellement habitué de s'identifier à nos pensées, de s'identifier, mais non, c'est du vent, en fait. T'sais. Les pensées, elles cherchent la sécurité, c'est souvent le passé vers le futur, ça me fait vivre l'anxiété. Quand je reviens dans mon corps, comment je me sens? Où est-ce que ça se place dans mon corps? Qu'est-ce que ça me fait vivre, cette situation-là? Et souvent, ça demande du recul, sinon c'est complètement comme ça. Le besoin de créer de la distance, ouvrir, il y a beaucoup, c'est souvent ouvrir, c'est souvent revenir à la maison, au sens propre et figuré. Et ça supporte beaucoup longtemps. Et c'est aussi d'avoir l'espace d'accompagnement sur plusieurs rencontres, quelques rencontres, pour, OK, j'ai besoin d'installer. J'ai besoin d'installer une nouvelle routine. J'ai besoin d'être ensemble dans un nous. J'ai besoin que tu me coaches. J'ai besoin de venir sporadiquement aux saisons ou pendant un temps rapproché. Parce que les soins sont aussi très, très supportants pour plein d'aspects. Tu sais.
Est-ce que la solitude est aussi fait partie des mots? Parce que quand tu as dit besoin de le faire à deux, besoin d'être supporté, besoin d'être reconnu, besoin. Il y a comme un. un besoin qui vient de l'extérieur.
Il y a un besoin de nous.
Ouais, c'est ça.
Ouais, il y a vraiment un grand besoin du nous. Le je, il y a déjà de l'exploration, allez voir. Hein. Mais il y a le nous. Il y a quelque chose de se sentir ensemble.
Les femmes ont besoin de ça.
Les femmes ont très besoin de ça. J'ai offert dernièrement une journée qui était de ressourcement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas... Auparavant, je faisais beaucoup d'ateliers. On se rassemblait avant la pandémie, par exemple. Et je l'ai appelé la Dharma Day et on était dans l'intuition. On était dans la créativité.
Oh,
on
wow.
a bougé dans le corps. On a reçu, on a échangé. On a pris notre temps. Et c'était tellement... et c'était ça que j'ai entendu. Merci, merci pour ce temps. J'ai eu besoin de me déposer, recevoir, ressentir.
Besoin de la communauté.
La communauté d'être.
Besoin d'être.
Besoin d'être. Faire beaucoup de choses. Et beaucoup. Et on réapprend ça. Et tranquillement, on se choisit à travers ça. Et ça fait toute la différence. Je me recharge. Je me décharge.
Mm-mm. Puis, as-tu des conseils que tu aimerais donner à celles qui nous écoutent pour améliorer leur santé, mais tu sais, des petits gestes qu'elles pourraient faire peut-être au quotidien?
Au quotidien. Une des premières choses, ce qui m'a le plus aidée, c'était de me poser avec moi et de dire qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Est-ce que j'ai besoin de, c'est ça, ralentir? Est-ce que j'ai besoin de bouger? Alors, il y a comme, on appelle ça une sadhana, en fait, se créer une routine, se créer une inspiration qui est autant prendre soin de mon corps, qui est autant de bouger dans du cardio, d'aller dans le pilates ou d'aller dans l'eau, en fait, d'aller dans les espaces d'éléments qui me nourrissent. Après, de faire des pauses, de méditer.
Dans les éléments qui me nourrissent.
Oui, l'Ayurveda, c'est une médecine des éléments, en fait. C'est une médecine, on parle de notre nature ayurvédique, de nos humeurs biologiques, de nos doshas, mais on parle aussi de cette nature-là. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Et à partir de là, c'est me choisir et d'aller faire d'écriture, de l'art. Est-ce que j'ai envie d'apprendre quelque chose? Est-ce que j'ai envie de danser, chanter au sens propre et figuré? Parce que personne ne va le faire à notre place, se choisir. Et souvent, on accumule.
Puis pourquoi c'est si difficile pour les femmes de se choisir, selon toi?
Il y a quelque chose dans nos gènes, il y a quelque chose dans nos os, du féminin, nécessairement, hein, de prendre soin, d'être au service, d'une certaine façon. On pourrait parler de tellement d'archétypes. Hein? Souvent, les femmes vont réaliser, j'ai vraiment besoin de sortir de la sauveuse. Je prends en charge... Je gère, je vis aussi beaucoup d'insécurité à certains aspects. Puis pour rentrer dans notre yin, dans notre féminin, on a besoin de sécurité. Notre système nerveux, on est vraiment beaucoup trop addict à l'adrénaline. Au cortisol, c'est une des hormones à traiter en premier, en périménopause. On est comme dans ce défi de notre génération où ça circule. Donc, il y a quelque chose à décoder, à recoder aussi. Dans les relations que j'ai en même temps avec moi-même, avec mes enfants, partenaires, quel rôle je prends, comment je peux redonner, et aussi aller dans... sortir de la sauveuse, c'est reconnaître ses besoins, ses limites, savoir dire non, savoir se choisir, en fait. Et ça, c'est pas... On n'a pas...
C'est le parcours de la quarantaine.
C'est le parcours de la quarantaine, de la cinquantaine, oui!
Oui, oui.
Et c'est ensemble qu'on le voit, en fait, parce que nos mamans, nos grand-mamans, pas là du tout.
Mais non, c'était toujours oui.
C'était toujours oui. Alors, les femmes, oui, on peut parler de crise, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ça. Il y a comme j'enlève des vieux manteaux, il y a quelque chose de... Je sors de ces espaces-là, en fait, pour redéfinir. Et quand on n'a pas appris, c'est comme parler un nouveau langage, en fait, une nouvelle langue. Moi, si on se mettait à parler allemand, ça va être long, là. Il y a de l'entraînement, il y a du temps à mettre, Et quand on parle de sadhana, il y a aussi une rigueur, une discipline de prendre soin. Il y a quelque chose de juste s'arrêter pour ressentir, être dans la nature, sortir de la ville, du bruit.
Donc ça, ce serait d'autres suggestions.
Oui,
donc on s'assoit, on écrit nos besoins, on sort de la ville.
On a le calme, dans ce qui me fait wow. On parle en Ayurveda du yoga des éléments, parce qu'on est beaucoup entre quatre murs, selon les saisons. D'aller voir la montagne, d'aller toucher la terre, d'aller sentir, d'aller dans l'eau, dans tous ces éléments-là, dans des activités, mais aussi ressentir les choses que mais de faire. Tu sais, et ça, je me régénère. Dans mon champ énergétique, dans mon cœur, dans mes surrénales. Et à partir de là, mais je rentre dans une autre zone. On pourrait en parler au niveau du cerveau, hein, très scientifique. Quand je suis sur le cortisol ou avec l'adrénaline, qui est extraordinaire en soi, c'est qu'à un moment donné, on s'en rend plus compte. On est complètement sur le pilote automatique de ça. Ça va très, très bien. Ça ne va pas nécessairement bien. Ça apparaît dans le pouls, ça apparaît dans les yeux, au niveau de la langue, au niveau du ventre, au niveau de notre digestion. Tout est en train de dire, c'est serré, en fait. Ça étouffe, ouais. Tu sais. Alors, ouais. Il y a des wake-up calls. Utérin, dans notre santé reproductive.
Et c'est vraiment le corps qui nous répond.
Ça revient toujours à ça.
C'est ça.
Ça revient toujours et souvent.
Parce que la tête a beau dire ça va bien, si le corps répond à autre chose.
Oui. Mais c'est beau parce que c'est de plus en plus présent et c'est magnifique à voir.
Exactement, oui.
Parce que dans ça, c'est la finalité de ça, quand on rentre dans notre établissement, la notion du temps, on l'oublie. Puis on fait du petit pas par petit pas, puis ça nous fait du bien, en fait.
Puis, il y a une des choses aussi que tu avais mentionné, c'était de vivre des nouvelles expériences et de voyager.
Oui, j'ai nommé ça.
C'est féminin, ça?
C'est très féminin. Et voyager, là, voyager, oui, voyager dans des destinations, voyager à l'intérieur, expérimenter des choses dans le corps, la danse, dans la cuisine, dans toutes sortes de formes d'art, voyager. Voyager, ça veut dire être réveillé, pour moi, en fait. Voyager, on peut... C'est extraordinaire, voyager. On a besoin de voir des choses, on a besoin de sentir dans plein d'aspects, mais on a besoin de sentir qu'on vibre. Et c'est ça aussi que je sens dans les femmes après la quarantaine, dans la quarantaine. C'est comme, j'ai envie d'exister. J'ai envie que ma vie goûte quelque chose.
Et t'en parles, puis c'est comme, wow, c'est donc bien beau, finalement, cette génération.
Mais oui, moi, je me suis jamais trouvée aussi belle et puissante, et les femmes autour, parce qu'on se connaît mieux, on connaît nos limites, nos besoins, on n'a pas le choix nécessairement de ralentir, d'écouter notre corps et tout, mais on rentre dans l'archétype de la grand-mère, qui n'est pas très vieille. On n'est pas dans la vieillesse du tout, là. On est dans la sage, on est dans la transmission, on est dans je m'écoute, je savoure aussi, je viens créer et je me permets tout ça. Donc, quand on ne crée plus, on s'éteint. Alors, la créativité, elle est tellement importante. Donc, la notion du voyage, c'est sentir que la vie me traverse. Elle est à l'intérieur aussi, il y a un flou, en fait.
Puis, à travers les soins corporels que tu offres, il y a un voyage aussi.
C'est ça. Et c'est pour ça que c'est tellement extraordinaire, parce que je suis touchée, je vais, il y a une danse.
Ça répond à plein de choses.
Oui, oui. Et quand on prend par exemple le tambour océan, qu'on entend l'eau arrive, la mer, elle est là. Je suis en train d'être dans la mer, en fait. Ou quand je prends le tambour ou d'autres types d'instruments, ou des odeurs spécifiques, ou des parfums que j'aime bien appeler, qui sont synergiques. Ou juste mettre les mains en imposition, créer du shaking, aller dans les tissus, descendre profondément, rajouter l'huile chaude. C'est multidimensionnel et c'est comme des initiations, en fait. Parce que on a beau... C'est magnifique apprendre plein de choses dans les livres, ou être ensemble en vidéoconférence, ou dans notre mental. Apprendre, c'est tellement important aussi.
Oui.
Des nouvelles choses pour notre cerveau, pour notre joie intérieure, en fait, la joie. La joie, elle est où?
Dans la découverte de nouvelles choses,
oui,
entre autres.
Oui, oui. Et c'est souvent parce qu'on la perd un petit peu, parce qu'on est très occupé dans notre famille ou dans plein de choses, notre travail et tout.
Mais il y a aussi une espèce, moi je le sens, là, parce que depuis quelques années, j'explore plein de choses. Puis il y a une espèce de... Je ne sais pas comment le nommer, là, mais c'est comme si la femme... qui s'émancipe, je veux dire ça comme ça, qui essaye plein de choses, on va dire d'elle, elle non, mais perdue.
Ah, oui. Perdue dans le sens, c'est pas ancré.
Alors que...
Non, au contraire, célébrons-la. Non, j'enlève les tabliers, ouais. J'enlève les vestons, j'explore. On est ici pour explorer, on peut partir demain matin. C'est pas avec nos diplômes puis nos comptes de banque. C'est tellement avec la chance qu'on a de vivre cette vie, d'expérimenter, de goûter, de sentir et de partager. Et c'est souvent là qu'on s'éteint à travers faire trop de choses ou s'oublier. Mais on y revient tranquillement. Mais oui, honorons ça, célébrons la diversité, l'exploration, parce que de toute façon, ça porte toujours de l'enthousiasme. Tu sais. Si j'ai pas d'enthousiasme, il n'y a rien qui va passer, qui va rester. Mais si j'ai une motivation pour quelque chose, et je vais apprendre des trucs, je vais changer ma chimie corporelle, je vais changer mes hormones, je vais changer ma peau, je vais changer de vision, parce que ça fait « wow ». C'est les « wow » qu'il faut aller. Puis quand ça ne fait plus « wow », c'est correct aussi.
Faut que ça passe.
Oui, il faut que ça passe, mais c'est souvent, on se dit « ben là, c'est sérieux » ou « j'ai... » En fait, c'est que les femmes souvent ont oublié. Je ne sais plus comment.
Et ça, j'ai entendu ça souvent.
Je ne sais plus trop comment. C'est
comment on fait pour jouer? Comment on fait pour s'amuser?
Oui. Comment on fait pour être connecté à notre petite fille intérieure, notre adolescente, notre grande sage aussi?
Sans avoir l'air folle, oui. On va le dire.
Oui. Sans avoir l'air folle. Il y a quelque chose d'oser.
C'est
couleurs.
Pour ça que les communautés de femmes deviennent importantes, je trouve, parce que on se reconnaît.
On se reconnaît, certains. Puis oser, même dans nos milieux de travail, peu importe avec qui on est, dans l'intuition, dans... Il y a tellement de techniques de créativité aussi possibles, hein, de coworking, d'approches qui sont révélatrices d'en jouer. Quand on joue, on a du plaisir. Puis quand on a du plaisir, l'énergie circule. Puis tout devient quelque chose de magnifique. T'sais. Et quand on est dans notre nature cyclique aussi, on a des phases dans notre mois. Et c'est tellement important d'éduquer les femmes à reconnaître leur cycle menstruel, à savoir qu'il y a différentes saisons.
Qu'est-ce que c'est, les... On peut-tu en parler de ça,
mais
les cycles?
Non.
Qu'est-ce que... j'ai la spécialiste pour en parler. Je vais en profiter. Les différents cycles, c'est... Dans le fond, tu parles des semaines avant les menstruations ou tu parles des saisons ou tu parles de tout ça?
Oui, je parle de tout ça en même temps. Parce que déjà de comprendre qu'on a une phase lutéale, qu'on a notre phase d'ovulation, qu'on a notre phase prémenstruelle, puis qu'à travers ça, les hormones jouent entre l'œstrogène, progestérone et d'autres hormones. Ça fluctue. Nous, on vit notre cycle sur 28 jours en moyenne. Un homme,
ça,
c'est 24 heures.
Avant la ménopause.
Oui, ça peut bouger, en fait.
Ouais.
Puis on peut être en périménopause et notre cycle ne bougera pas tant. Notre flux peut être pareil, la durée peut être pareille.
Okay.
Alors, on peut vivre plein d'autres symptômes aussi. Mais ce qui est important, c'est que les femmes sachent, en fait, je peux prendre des anovulants, je peux prendre le stérilet, etc., je peux prendre des hormones, mais à un moment donné, je suis déconnectée de ça. Peut-être parce que j'ai des symptômes ou j'ai certains problèmes, oui. Mais d'un autre côté, c'est qu'il y a des saisons. Les saisons, l'été, l'hiver, l'automne. Quand je suis dans ma phase ovulatoire, c'est une saison d'été. Je suis dans mes pics d'hormones. J'ai de l'énergie, j'ai envie d'aller vers l'extérieur, les projets, je me sens « wild », tu sais. Puis c'est une semaine qui est productive, qui est dans la réalisation. Et tranquillement, quand j'arrive dans la phase prémenstruelle, fou, ça descend comme ça. Je suis dans une phase plus d'automne. Alors, imaginez juste penser la saison, les caractéristiques de la saison. Alors, c'est plus froid, c'est plus... J'ai besoin de descendre, de ralentir pour justement aller dans ma phase menstruelle où c'est l'hiver, c'est une sorcière. Je ne peux pas me demander d'avoir la même énergie dans ma phase prémenstruelle, de réinventer ma vie dans cette semaine-là parce que des fois, j'ai des symptômes ou parce que juste physiquement, mon corps s'en va tout doucement vers la menstruation, vers mon utérus. Donc, quand j'ai mes règles aussi, je ralentis. J'enlève, j'ai le droit d'enlever des choses dans mon agenda, j'ai le droit d'enlever un repas, un souper, une réunion. Quand je comprends mieux que ma phase ovulatoire, elle est « wow », j'installe plus mes choses là d'action. J'ai envie, sinon je rentre dans ma grotte. Puis souvent, on se dit « mais qu'est-ce qui m'arrive? » Mais c'est normal aussi. Et il y a d'autres formes de créativité.
C'est normal et je pense que c'est sain.
Mais oui, c'est sain.
Ouais.
Et on n'est pas tant dans ces espaces-là parce qu'on est toujours souvent dans un « keep going
ouais. ».
Je continue. Puis, souvent, j'ai des symptômes aussi, mais il y a tellement de belles approches naturelles. Il y a tellement de belles approches aussi, dès que je commence à connecter avec mon cycle.
Qui peuvent atténuer les symptômes?
Mais oui, de plein de façons. En naturaux, plein d'approches. Donc, à partir de ce moment-là, c'est « Ah, wow, OK, cette semaine-là, elle est comme ça. » Je me pose moins de questions. C'est moins fort en moi. Des formes de culpabilité ou, tu sais, on entend, ben oui, j'ai le droit de me sentir plus anxieuse ou j'ai le droit de me sentir plus, un petit peu plus de feu parce que ça doit circuler. L'utérus, lui, va pulser avec l'énergie des reines. naturellement, en médecine ayurvédique, chinoise, on va parler de ces énergies-là ensemble. Donc, c'est le catalyseur du moi énergétique et physique.
Et c'est essentiel parce que tout ça, c'est là pour qu'on puisse porter la vie aussi.
Mais oui, Et qu'on puisse la vivre et la partager autour de soi, dans l'intuition, dans les rites.
Absolument,
oui. On est des messagères de plein d'aspects, en fait.
Puis là, après les menstruations, ce serait le printemps.
Après les menstruations, oui, on commence dans le petit printemps. Alors, le printemps, c'est tout doux. Petite fleur prend soin, c'est encore sensible, c'est encore fragile. Tout ça remonte mon énergie. Il y a quelque chose qui rise. On sent, il y a quelque chose. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, quand on est dans cette écoute-là, beaucoup de choses changent dans mon énergie, dans physiquement, dans mon sommeil, dans mon humeur et ma créativité.
Parce qu'il n'y a plus de culpabilité.
Oui, de culpabilité, puis de...
Une compréhension.
Oui, je ralentis, j'écoute. Moi, c'est dans ma phase menstruelle que j'ai le plus d'inspiration, puis c'est là que je crée le plus.
Dans la phase hiver.
Oui, d'introspection. J'aurais jamais pensé ça quand j'ai commencé à voir, à faire des corrélations... Je vais venir plus écrire, il y a plein de façons. Je vais prendre des plantes.
Parce que tu as été à l'écoute.
Oui, j'ai pu l'apprendre et c'est ce qui me permet aussi de le partager depuis des années avec les femmes. Quand elles viennent pour un soin, c'est quoi ta phase en ce moment? C'est quoi la saison qui est là? On parle de choses. Okay, comment ça se passe? On accorde le soin.
Quelqu'un qui est en périménopause ou préménopause, là, je suis un peu mêlée dans les thèmes, mais si je te dis, ça fait 45 jours ou 60 jours que je ne suis pas menstruée.
Oui. Quand on arrive avec ça, on porte le monde. Ça fait 40 jours que je porte des choses. Mais ça, et souvent, les femmes vont dire, « Oh! » Et ça dépend comment je le vis. Il y en a qui vont vivre très bien. Il y en a qui vont sentir une grande fatigue. Il y en a que ça va dépendre comment la personne va arriver. Mais parce qu'on peut ne pas avoir eu de règles depuis 40 jours, 60 jours. Mais l'utérus est comme en dormance aussi.
Mais oui.
Mais oui. Puis après, il peut commencer à porter des choses, on peut sentir ça, donc on peut, et énergétiquement, même si on a eu hystérectomie, qu'on n'a plus notre utérus physiquement, énergétiquement, c'est là.
C'est là.
Je ressens des choses, je suis connectée, je peux avoir mes ovaires, je ne peux plus avoir d'utérus, par exemple, mais mes hormones sont toujours là.
Ah oui, ben, je vais faire un parallèle pour celles qui peuvent douter, tu sais. J'ai rencontré à un moment donné quelqu'un qui s'était fait amputer la jambe, puis il sentait encore sa jambe très présente, donc... Même si on se fait enlever des morceaux, énergétiquement, ils sont encore là.
Oui, les membres fantômes, ben oui. Puis quand tu parles de ça, on pourrait même parler de tout ce qu'on a pu vivre in utero, ce qu'on a pu vivre dans notre ventre, dans notre cœur. On a plein d'empreintes, tu sais. Puis ce vécu-là se traduit par des langages. C'est un langage corporel, un langage... Et on s'en va à la rencontre de ce langage-là.
Dans tes soins.
Dans les soins, dans les approches, dans l'accompagnement.
Quand on prend du temps.
Quand on prend le temps. Puis l'expérience. Puis quand on est plus détendu, quand on a plus d'endorphines dans notre corps, de cytocine, c'est un peu ça aussi le soin. Il y a d'autres choses qui se passent. J'ai plus de perspectives.
C'est vraiment tellement intéressant. Parce que t'as... Là, on a été dans vraiment beaucoup, beaucoup de sujets. Puis pourtant, avec toi, je m'étais dit... On va parler vraiment, vraiment de plus au niveau des hormones, tu sais, au niveau hormonal, parce que les femmes dans la quarantaine, il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Là, tu en as parlé un petit peu. Tu as parlé de cortisol, tu as parlé de...
Bien, le cortisol, l'œstrogène, progestérone, testostérone, on a tout ce cocktail d'hormones-là. Et souvent...
Et dans ces cycles-là, qu'est-ce qui se passe avec ces hormones-là?
Bien, il y a des fluctuations, alors il y a des pics, puis il y a des descentes, en fait. C'est ce qui fait que la menstruation va arriver. Mais ce qui est important à travers ça, dans le partage, c'est que souvent, dans la périménopause, c'est de comprendre qu'on a ces hormones-là et qu'à travers ça, on a un cycle circadien aussi de nuit et l'impact que ça a. Donc, quand j'ai trop de cortisol aussi dans mon corps... où mon corps, naturellement, va commencer à sécréter le cortisol 2h, 3h du matin. S'il y en a déjà beaucoup, je peux avoir beaucoup de réveils à ce niveau-là. Je peux avoir un débalancement vata entre 2h, 6h du matin. Et ça parle, en fait, de certains débalancements hormonaux. Et comment on va savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps? C'est ça le truc. C'est que souvent, ça s'installe dans certains symptômes qu'on va vivre, différemment. C'est pas juste les bouffées de chaleur.
Ah oh, non,
c'est la périménopause, c'est avant, pendant et après. C'est comme la périnatalité. Et on est dans périménopause toute notre vie.
notre naissance,
j'ai envie de dire. Ben, parce que tout va fluctuer à travers le temps et tout ça. Donc, il y a quelque chose de crucial puis primordial à partager. Et c'est souvent quand je vais aller consulter davantage en médecine alternative ou que je vais aller au privé par rapport aux prises de sang. Qu'est-ce qui se passe dans mes taux? Je vais prendre un taux au troisième jour, au 21 jours, pas juste une prise de sang aléatoire. On n'a pas une lecture globale des fluctuations.
Oui, c'est ça, les hormones, il faut vraiment aller
plus spécifique. Et c'est souvent au privé parce qu'on va aller chercher davantage d'expertise, on va se le dire, au féminin. Puis aussi un support pour aller voir, mais l'œstrogène est correct, progestérone peut-être, j'ai peut-être besoin d'en prendre une certaine phase dans mon cycle, ou non, j'ai besoin d'en prendre tous les jours.
OK, ça dépend vraiment.
C'est le bilan sanguin qui va parler. Puis après ça, tranquillement, oui, les hormones bioidentiques, certains modes de vie, et tout ça ensemble, ça fait une approche globale.
Pourrais-tu me décrire Vata, Pitta?
Kapha. On parle des trois doshas. On s'amuse avec
oui,
ça.
Oui, les trois doshas.
Alors, en Ayurveda...
Après ça, j'ai une autre grosse question.
Alors, déjà, l'Ayurveda va regrouper une nature ayurvédique selon des doshas qu'on appelle en sanskrit, qui veut dire que c'est constitution. Alors, la constitution, on y va avec les cinq éléments et on les définit par trois. Donc, le vata, le pitta et le kapha. On peut entendre kapha aussi. Alors, le vata relie l'élément air et éther. Alors, c'est du mouvement dans le corps. Le vata, c'est le péristaltisme, c'est la respiration, c'est l'énergie. On a différents vents dans le corps. C'est aussi notre façon d'être en vie, de la circulation de nos fluides et tout. Alors, quand on a trop d'air et d'éther, si on fait le jeu, là, on pense à l'air, l'élément, puis l'éther, à quoi tu penses? C'est quoi les images qui te viennent en tête quand il y a trop de vent, quand il y a trop d'espace?
Beaucoup de souffle. C'est le souffle.
Oui, le souffle, on peut être éparpillé, on peut être comme un peu une girouette.
La tornade. Ouais.
Moins de focus, plus froid dans le corps, plus de raideur aussi, parce que ça monte.
Du mouvement, beaucoup.
Oui, du mouvement, puis c'est tout ouvert, en fait. Alors, il y a des belles qualités au Vata. Très créatrice, très artistique, très sensitif, empath aussi. Je vais sentir beaucoup les choses, je vais aimer la créativité, je vais aimer le mouvement. Mais quand c'est dans l'excès, parce qu'en Ayurveda, on va toujours traiter les excès. Je me sens éparpillée, fatiguée, anxieuse. C'est beaucoup système nerveux, le vata, quand il est en excès. Alors, je vais avoir des raideurs dans mes hanches, dans ma nuque. Je vais avoir peut-être des acouphènes, une sensibilité au bruit. Je vais avoir... ça va être irrégulier. Alors, ma digestion, mon sommeil, mes émotions, ça va se promener comme ça.
OK.
Alors, ça, c'est le vata. Alors, lui, il a besoin de s'ancrer, s'enraciner, de chaleur. Autant dans son alimentation... dans ses activités, que dans son quotidien, en fait. Parce que quand on est débalancé vata, tout le monde est en excès de vata dans notre société actuelle. Même si ce n'est pas ton dosha primordial, on a toujours deux doshas qui chevauchent, qui sont ensemble. Des fois, on est tridoshique avec les trois. Alors, le vata s'en va comme ça. Alors, lui, enraciné, réchauffé, ancré. Ensuite, on a le pitta, le beau pitta, qui est le feu. Le feu et l'eau. Alors, le feu, c'est beaucoup dans l'abdomen. C'est beaucoup ani. Annie veut dire feu digestif. Alors, dans ces éléments-là, la femme pitta, elle a beaucoup de leadership. Elle est physiquement moins filiforme que le vata, tout mince, vraiment tout petit. La femme pitta va être plus de nature athlétique, va avoir plus des mâchoires carrées, une peau un peu plus rouge, du chaud. Ça a du chaud. Il y a du charisme, il y a une facilité à parler. C'est des bonnes vulgarisatrices, des leaders aussi. Va aimer transformer les choses.
OK.
Les visions, c'est que je m'en vais là. Alors, quand il y a trop de feu, quand il y a trop d'eau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer?
Ben, il manque d'ouverture, il manque de flexibilité, il manque de mouvement.
Comme la rigidité, il y a du chaud, il y a de l'impatience, il y a de l'irritabilité, il y a de l'acidité, il y a de l'inflammation.
Aussi, dans le corps, oui.
Ça fait un peu comme un feu. Tu sais, on peut avoir un beau feu parfait, on peut avoir des petites braises où c'est éteint, j'ai pas de feu, donc ma digestion, ça va pas bien. Mais quand on a du feu en surplus, j'ai de l'acidité, j'ai de l'inflammation, j'ai de l'irritabilité. C'est comme... j'ai comme une petite cocotte minute, là. Ça fait tch-tch-tch-tch-tch comme ça. Alors là, j'ai besoin de rafraîchir. Oui. Rafraîchir, nommer, prendre le temps. C'est souvent les femmes pitta qui vont brûler un petit peu la chandelle par les deux bouts. Beaucoup de directions, beaucoup de chevaux, des projets. Juste j'en enlève un petit peu parce que ça va souvent à l'épuisement, à la fatigue. Donc, ça prend de l'eau, ça prend de l'espace, ça prend une méthodologie aussi. Du lâcher prise. Puis une alimentation fraîche, plus végétarienne.
Ah ben oui, parce que là, on va aller calmer le feu.
Les épices vont être plus fraîches, on va avoir des moins d'activités de compétition, plus d'ancrage. J'ai besoin de libérer beaucoup d'énergie chez les personnes pita. Donc, je dois trouver des directions. J'aime ça le mouvement. Mais quand je le fais trop, je vais tomber très fatiguée, puis je peux aller dans le kappa, qui nous amène dans le troisième.
OK.
Alors, le kappa, c'est l'eau et la terre.
Okay.
Alors, les caractéristiques de la terre, c'est très ancré, très enraciné, ça nourrit. C'est là qu'on est solide. Il y a de l'immunité, il y a plein de possibilités. Puis l'eau, c'est aussi des écosystèmes, c'est l'élément. Mais quand il y a trop d'eau et trop de terre, qu'est-ce que ça t'amène à voir à l'intérieur de toi?
La boue.
Ouais, ça crée de la stagnation. Ça fait comme un marécage. C'est comme... Il y a comme quelque chose qui est trop. Alors, c'est plein, c'est complet. Alors, souvent.
Finalement, c'est pas si compliqué, l'Ayurveda. Non. T'es donc bien une bonne pédagogue.
Ben oui. Quand on s'amuse avec les éléments, les saisons, on peut trouver plus de qualificatifs. Donc, quand il y a trop d'eau, de terre.
De boue.
Le corps parle. Je suis très fatiguée. Mon transit est hyper lent. J'ai de l'eau dans mon corps. J'ai plus de mucus. J'ai plus de muqueuse. J'ai plus de sensibilité. Je rentre dans une zone de... Un peu de je m'en foutiste. J'ai envie de dormir. J'ai envie de manger huileux. J'ai envie de manger sucré. Et là c'est là que j'ai besoin d'équilibrer, dans le fond. Alors, comment on équilibre? C'est je ramène du mouvement. Je ramène une direction. Parce que souvent, les personnes capables en excès vont avoir... C'est ça, beaucoup de problèmes ORL. Beaucoup de mucus. Okay. Ouais, c'est là que ça va se passer davantage. Le froid dans le corps aussi.
OK.
Fatigue. Et là, j'ai besoin d'activer. J'ai besoin d'arrêter de tourner à 360 degrés toutes les choses, de procrastiner. J'ai besoin de passer à l'action. Nommer les choses, me choisir, bouger. Alors, physiquement, les personnes capables ne vont pas aimer le mouvement, le sport, recommencer. C'est plutôt introverti. Ça va aimer prendre soin. C'est beau. C'est très solide, le capa. C'est très monocorde aussi. Mais là, elles ont besoin, ces femmes-là, d'activer. Alors, on va faire des soins de farine, d'exfoliant. D'où des massages. C'est moins longtemps, il y a moins d'huile. On ne peut pas mettre trop d'huile dans le corps est déjà plein d'eau.
Okay.
Alors, on va travailler différemment. On va faire des kabbalabhati, on va faire de la marche rapide. On va manger des céréales plus sèches, quinoa. On va aller dans plus épicé, mais pas piquant, pour que le feu s'active, pour éliminer l'eau. C'est fun, hein?
Ah, c'est magnifique. J'adore ça. Puis en plus, la façon dont tu l'expliques, c'est très, très imagé. Très intéressant. Puis l'autre sujet où je voulais aller, le dernier, je te promets, le ventre, le ventre est souvent représenté chez les artistes comme le siège de la féminité. Et toi, tu as développé un soin, tu vas m'en parler, du ventre.
Oui. Le ventre m'a toujours fasciné pour plein de raisons, pour notre deuxième cerveau. Pour étudier le taoïsme aussi, dans les formes, le bouddhisme, le chinedzang, le massage. Dans le saravasti aussi, le massage ayurvédique. Et les femmes, et toujours mes mains étaient appelées là. Il y a le dantien, il y a le nombril, il y a le hara, il y a nos organes, il y a toute notre énergie organique viscérale, et qui est souvent comprimée, contractée. Et en massant le ventre, c'était incroyable les tensions qui se libéraient, émotionnellement, physiquement aussi. Et tout ce qui se rebalançait, en fait. On va aller dans le ventre spécifiquement pour toutes ces belles raisons, dans le fond. Et à travers le temps, je me suis dit, oh, wow, pour rentrer dans le ventre, c'est tellement intime aussi d'aller masser un ventre. Donc, il y a quelque chose de prendre soin, d'aller étirer. Donc, il y a quelque chose de relâcher le bassin, relâcher le psoas avec des séquences d'étirement, de mobilisation passive, de prendre le temps de créer cet espace dans notre ayam. Tout est serré. Périnées serrées, fesses sont serrées, le ventre, par plein de facteurs, puis de beauté aussi, de créativité. Mais quand je parle de ça, souvent, les tensions viennent de l'abdomen et vont se propager un peu partout. Et on pense qu'on est au niveau du dos, on va aller traiter dans le ventre, ça va tout relâcher.
Ah.
Et ça va créer
c'est fascinant.
Une grande expiration, comme je me retrouve à la maison. C'est notre ayam, le bassin, c'est notre centre. On pourrait parler des chakras dans cet espace-là, des portes énergétiques aussi, du chi. du prana.
Alors, le bassin, c'est...
Oui, le nombril. Il y a tellement de terminaisons nerveuses autour du nombril, lymphatique au niveau du plexus. Et quand on est dans ces zones-là thérapeutiques avec les approches, mais quand on est dans la zone énergétique, de travailler un foie pour libérer la colère, entre autres, ou recréer une dynamique, il se passe plein de choses. Et surtout, il se passe des choses après. Il se passe des choses pendant le soin. Mais le soin, moi, je dis souvent, le soin commence après. Dans tes ressentis, dans ton sommeil, dans tes rêves, dans tes sensations. Il y a un bien-être, c'est sûr. Quand nous sommes les yeux l'ayurvédique, on nourrit. Les corps absorbent. L'huile. Alors, il y a plein de plantes, ça va dans les tissus, dans les muqueuses, et ça vient créer toute une d'homéostasie.
Donc, okay,
on va se repartir. On vient juste aider les systèmes à se réguler.
Homéostasie, c'est l'équilibre.
L'équilibre. Oui, on ramène les espaces pour que ton corps est totalement capable d'aller par lui-même. Et oui, alors j'ai créé ce massage qui est un mélange de...
Et tu enseignes aussi?
Oui. J'enseigne plein de thérapies manuelles ayurvédiques qui sont reconnues par les associations professionnelles, massothérapeutes, depuis plusieurs années, et plein de soins ayurvédiques pour ramener cette pratique-là aussi dans un next level. Hein. On a plein de belles pratiques en massothérapie, différentes approches énergétiques, biomécaniques, thérapeutiques, mais l'ayurveda, et quand on mélange ces façons somatiques de travailler, il y a une beauté extraordinaire, je veux dire, la personne, elle se connecte à elle-même, elle est capable aussi de dire, mon vata est débalancé, mon pita, puis je vais prendre soin, puis il y a de l'éducation qui se fait, il y a de l'accompagnement. Beaucoup, les femmes sont rendues dans, j'explique dans cette vision-là de la massothérapie, on n'est pas juste dans les muscles, les insertions, on n'a plus envie, là, il se passe des choses dans le corps des gens d'une certaine façon, ça dépend de ton approche, et quand je dis on n'a plus envie, c'est que quand il se passe quelque chose dans le corps, il y a quelque chose qui est en train de parler d'une certaine façon.
Donc, c'est plus juste question des muscles.
C'est plus juste question de tension, de posture. Oui, c'en est une. Mais c'est global, tout ça ensemble.
Absolument.
Parce que j'ai traité autant des athlètes, autant des femmes, des danseuses, des artistes, toutes sortes de personnes, qu'au final, je prends conscience de « Oh, mes pensées, ça va les transformer en émotions. Mes émotions, c'est des hormones. Les hormones, c'est de la chimie. » Alors, ça s'installe. Et quand on est à l'écoute de ça, on fait comme « Ah, mon corps est en train de me parler. »
Quelle chance ils ont, ces thérapeutes, de faire tes cours. Wow!
C'est des initiations. Wow, moi, j'aime faire vivre ces initiations-là, de recevoir la thérapie. Quand on fait le Shirabhyanga, le massage indien de la tête, pendant tout un week-end, on est huilé toute la fin de semaine. Alors, on la vit, la thérapie. Et on dort, et on parle le lendemain, puis on va aller faire des exercices dans le corps, des exercices de méditation. On va apprendre les manœuvres, on va les recevoir, les donner. Et c'est toute une expérience. Parce que you have to feel to heal. Je ne sais pas comment dire en français.
Hey, je l'ai traduit.
Ah, pour sentir.
Je l'ai traduit parce que j'ai dit, je vais lui demander, c'est tu as besoin...
Sentir.
Tu as besoin de ressentir pour prendre soin de toi. Mm-hmm. Quelque chose comme ça. Tu sais, la bonne traduction, là, c'est que... Tu sais, il y a aussi l'expression, là, tu sais, il faut que ça fasse mal pour qu'on réalise qu'il faut prendre soin de nous, là. C'est un peu ça.
Oui, c'est un peu ça. En fait, oui, puis ça veut surtout dire, je dois ressentir pour guérir d'une certaine
pour
façon.
Pour guérir, c'est ça. Pour, c'est ça l'expression.
Oui, ouais. Pour guérir, puis guérir, c'est au sens très
donc,
large.
Si je ressens, je peux guérir. Si je ne ressens pas, c'est ça.
Oui, parce que quand ça te traverse, quand tu le ressens, tu l'as vécu. Puis on doit apprendre tout doucement à connecter avec ces émotions-là. C'est notre travail, en fait.
Parce qu'il est là, le ressenti, dans les émotions.
Tout est là. Tout est là. C'est pas dans nos pensées, c'est dans notre corps.
Dans le corps, oui.
C'est des explorations.
C'est magnifique. Chanceuse de vieillir avec toutes ces connaissances-là.
Bien,
puis on est chanceuse aussi d'avoir accès à des femmes comme toi qui vont nous permettre de vieillir un peu plus sage. C'est une grande sagesse, l'Ayurveda.
Merci. Alors, c'est une grande sagesse, puis plein de belles femmes m'ont montré le chemin aussi.
Plein.
Ouais,
c'était vraiment un plaisir de te rencontrer, puis on va se revoir, c'est sûr.
Merci à toi.
Merci, Annick. Merci. Le meilleur de soi, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté de femmes qui veulent prendre soin d'elles, être en santé et se laisser inspirer. Parce qu'on mérite de se sentir bien, épanouie, rayonnante, et en pleine possession de nos moyens.